Jean Lorrain, Au-delà, à Joris Karl Huysmans. Ici, parmi les chênes, l'ombre est un miroir étrange de rêverie, et toutes les fleurs sont telles qu'elles vivent de vieilles vies pensives. Et quand je songe en regardant les plaines qui roulent par-delà les branches, il passe des cortèges d'heures oubliées. Ces vers, sauce des vers, je les relisais pour la deuxième fois avec une surprise charmée et inquiète, emportée bien loin du petit chemin de banlieue où je les feuilletais, vers je ne sais quelle solitude ombragée et profonde. Et à 100 lieues vraiment de la porte d'Auteuil et du frêle et frieux décor de ces dessous de bois, grisaille éclaboussée de vert et gouaché de violet par l'éclosion des pousses, je me prenais à rêver d'un sauvage et d'une calme lisière de forêt, pénétrée d'ombre et baignée de silence, d'un coin de bois obscur où luiraient çà et là, pareils à des regards, des calices d'iris et de pervenches humides. Ici, parmi les chênes, l'ombre est un miroir étrange de rêverie, et toutes les fleurs sont telles qu'elles vivent de vieilles vies pensives. Quant au tournant du chemin de ronde, dominant de toute sa haute taille les glacis des fortifications et les broussailles rajeunies, la silhouette efflanquée de Santis s'enfilait à quelques pas de moi, dessinée d'un trait net sur le ciel léger. Cette bleue matinée d'avril l'avait lui aussi invité à sortir, et, leste désinvolte, il rentrait de Passy à Auteuil par le bois. Son fils, un bambin de 4 ans, demi-nu dans un jersey, gambadait au travers de ses jambes avec des rires heureux de vivre et des papas par-ci et des petits-pères par-là. Saint-Is est un vague confrère, un vif et un intelligent, remuant, débrouillard, brassant, bâclant et cumulant des affaires et des articles dans plus de 20 périodiques et quotidiens. Un de ces infatigables pondeurs de copies qui tirent à la ligne et chroniquent en même momètre, grand suiveur d'enterrements, de fêtes et de banquets littéraires, grand ponteur de cercles manifestants, de première, un de ces garçons qu'on voit partout. Voilà 10 ans que, sans plus nous connaître, nous échangions de hâtives poignées de main dans les couloirs de théâtre et les escaliers de journaux. 10 ans que nous mimions à grand tour de bras les rapides « Bonjour, cher !» d'un bout à l'autre du boulevard. Mais en bonne conscience, je ne l'estimais guère. Je le savais, marié à une délicate et maladive jeune femme, rarement entrevue dans le clair-obscur d'une baignoire aux répétitions générales. Et cette douloureuse créature, condamnée par la faculté à la suite de couches, et depuis 3 ans clouée sur une chaise longue dans l'isolement et l'immobilité, Saint-Is la trompait effrontément, cyniquement, sans vergogne, menant ouvertement la vie des filles et des tripots, affichant ses caprices d'un soir et ses liaisons d'un mois dans les endroits publics où notre ennui s'abuse, ramassant ses maîtresses des coulisses des petits théâtres aux halles de plaisir, comme les Folies ou le Moulin Rouge. Et la pauvre isolée, paraît-il, l'adorait. Elle avait voué, disait-on, à ce viveur un culte exalté et fervent de pensionnaire amoureuse, un culte dont la dévotion s'exaspérait encore dans la chasteté désormais imposée à son jeune amour. Atteinte et meurtrie par le mariage aux sources mêmes de la vie, cet estropié de la maternité en chérissait d'autant plus l'auteur de sa souffrance, le mal inconscient et maladroit peut-être par la faute duquel elle devait mourir. Santis savait cela pour lui, et il fallait bien le lui rendre cette justice, qu'il entourait cette adorante agonie d'un grand confort et même de luxe. Madame Saint-Is, s'éteignait lentement dans un cadre élégant de meubles choisis, de plantes rares et de soie claire. N'ayant pu me réfugier à Auteuil, chassé moi aussi de l'intérieur de Paris par l'ordonnance des médecins, j'avais trouvé les Saint-Is installés dans un coquet petit hôtel de la rue Michel-Ange, isolé de la chaussée par les massifs arrosés et fleuri d'un véritable parc. Et les après-matinées de soleil, d'une heure à deux, il m'arrivait de rencontrer au bois Madame Saint-Is, étendue dans le fond d'une victoria de louage, les pieds posés sur la banquette de devant, mais sous les couvertures amoncelées autour d'elle, si fluette, si pâle, et son visage mince, si désespérément là. La pauvre femme, connaissait-elle la vie menée par son beau Georges? L'existence des gens de presse a de telles exigences qui pouvaient en somme la payer de défaites. Mais daignait-il sauver les apparences? Se donnait-il seulement cette peine? Ne découchait-il pas des 4 et 5 fois par semaine? Combien souvent ne nous étions-nous pas rencontrés déjà cet hiver à la gare Saint-Lazare, au triste et lamentable train de 6 heures du matin, le train des cottes et des blouses, compartiment de seconde, et celui des habits noirs et des pelisses fourrées, compartiment de première, départ d'ouvriers et retour de noceurs. Bref, je m'étais mis en tête cette légende que ma pâle voisine de la rue Michel-Ange mourait beaucoup moins de son mal que des infidélités de son mari viveur, et mon antipathie pour Saint-Is, antipathie dans laquelle entrait certainement un peu de haine méprisante pour l'insoucieux bâcleur de copies, différent aux lettres et à tout effort d'art, mon antipathie grandissante pour Saint-Is s'aggravait de toute la sympathie de tous les sentiments le plus impoyable, comme a écrit Swinburne, qui m'attachait à sa frêle jeune femme et me faisait m'attendrir sur son sort. Saint-Is était maintenant auprès de moi. Tout en échangeant des banalités d'usage sur la santé de sa femme et le temps enfin meilleur, il s'était assis sur le banc à mes côtés, et tout en caressant les cheveux blonds bouclés de son bandeau, machinalement, il avait pris dans un tas de journaux apportés là par moi la jeune revue que je venais d'y poser, tout ouverte. Les entretiens. Oh, une revue de jeunes, gouaillait-il impertinent. Puis, tombant justement sur le récent passage. Oh, c'est cela qui vous plaît, n'est-ce pas? Et d'une voix caressante et grave, que je ne lui soupçonnais pas, il rythmait les vers blancs de Griffin. Ici, parmi les chênes, l'ombre est un miroir étrange de rêverie, et toutes ces fleurs sont-elles qu'elles vivent de vieille vie pensive, de vieille vie pensive, répétait-il comme rêvant. Et quand je songe en regardant les plaines là-bas qui se déroulent par-delà les branches, il passe des cortèges d'heures oubliées. Poète, va. Elle s'interrompait pour reprendre d'une voix altérée. Des cortèges d'heures oubliées, ou presque. Car voici que je suis vieux. Elle passe vers les collines ensoleillées, comme des filles et des jouvenceaux, en chantant, et je ferme les yeux. Et je souris en songeant que je fus un autre, en autrefois. Oui, la préexistence, la vie antérieure de Baudelaire, j'ai longtemps habité sous de vastes portiques. Les poètes ne sont peut-être après tout que des âmes qui se souviennent, des âmes douées de mémoire, lesquelles, à travers les réalités présentes, évoquent et surtout savent évoquer et les vieux mots souffert et les splendeurs vécues au-delà, dans l'autrefois. Ils sont dans le mouvement, ces jeunes, concluait-il en fermant la revue. Ça, c'est un doux habile, mais ils ont flairé et senti le vent. Il est certain que le naturalisme agonise. On est là des photographies de basse mœur, et la nausée prend enfin le public d'une littérature déviée et d'excréments. Le romantisme, qui eut des envolées sublimes, c'est démodé par les oripeaux et le paillon, et pourtant, il y a certainement autre chose. Peut-être l'étude du mystère, de l'insaisissable et du pressenti qui nous entoure et toujours nous échappe. Mais ces frissons d'âme, ces frôlements du monde invisible, quelle littérature ne les rendra tangibles? Oh, savoir ce qu'il y avait avant ce qu'il y a au-delà. Mais ça vous étonne ce que je vous dis là. Ah oui, parce que je suis un qui fait la noce et qui traîne la nuit les bastringues. Vous étiez imaginé. Écoutez, vous, je sais que vous ne m'aimez guère. Et un mouvement de protestation. C'est tout naturel. Avec la littérature que vous faites et le tempérament que je vous crois, vous devez trouver odieux le gâcheur de copies et le loupeur de restaurants de filles qu'on voit surtout en moi. Et puis, je trompe ma femme, et publiquement, avec des drôlesses. Et quelles espèces, hein? Et une petite femme intéressante, navrante, malade, qui m'adore, et que vous devez aimer, vous, car Madame Saint-Is est bien un modèle de femme à vous captiver, vous, l'homme à la fois sensible et froid. Mais moi aussi, j'adore ma femme. Je l'adore, vous m'entendez? Et la preuve, c'est que je l'ai épousée par amour, sans un sou de dot, malgré l'opposition de tous les miens, et que je sue des 3 et 4 heures articles par jour pour lui donner le bien-être qu'elle a. Mais j'ai eu cette chance, moi, que, mariée par passion et sensuelle et sanguin, ma femme n'est plus une femme. Vous me comprenez? Depuis ses couches, depuis 4 ans, depuis la naissance de ce gamin, et poussant doucement devant lui l'enfant qu'il avait secoué un peu brutalement, « Va jouer, mon petit, » ajoutait-il dans un léger tremblement dans la voix. « Depuis la naissance de cet enfant, j'ai chez moi une sœur, si vous le voulez, une amie, une camarade, et quelle camarade, une malheureuse et douloureuse créature. » Condamné à mourir, à un boulet, quoi. Et le mot lui échappait dans un rire cruel. Mais entre nous, plus rien. Sinon pour elle, la mort et un bref délai encore. Et ma femme m'aime et me désire, hélas, la pauvre enfant. Ah oui, elle m'aime. Et après un silence. Oh, j'ai des sens, j'ai 32 ans, moi. Je ne suis pas un rêveur et un névrosé comme vous. Je suis un sanguin qui barde et qui hussarde. Et puis c'est si triste chez nous, cette misérable jeune femme qui souffre et n'ose se plaindre, toujours immobile sur un lit. Cette martyre silencieuse que tenaille et torture cette blessure incurable. Et c'est si injuste surtout. Alors je prends mon chapeau, je sors, je vais à Paris, là, partout, dans le premier mauvais lieu et... J'oublie, j'essaie d'oublier. Ces filles, ce sont des matelas de chair assez commodes en somme. Et quand on peut dormir auprès, c'est autant de gagner sur la vieillesse et les morts de chagrin quotidien. Or, comme j'ai chez moi une malade affinée et amaigrie, je prends préférence des belles filles robustes et rebondies à la croupe ferme, au sein crêté et droit. Oh, il y a un mois, j'étais chez l'une d'elles, vous la connaissez d'ailleurs, Lucie Marga. Et vers 2 heures du matin, mes sens enfin calmés et la corvée finie, je me trouvais soudain dressé sur mon séant, le cœur soulevé à la hauteur des lèvres par un immense dégoût un dégoût de cette fille et de moi. Comme une odeur de pourriture humaine me montait de cette alcôve luxueuse et banale de coucheuse à 5 louis. Penché sur elle, je la regardais dormir, étalée au travers du lit, le visage enfoui dans l'oreiller, et comme écrasée dans le désordre de sa lourde chevelure, elle ronflait, et les cuisses écartées sur le ventre, et la rondeur de sa croupe énorme ballonnait cyniquement sous les draps. Je l'avoue, cette chair que je venais de posséder, et brutalement, 2 ou 3 fois depuis minuit, me fit horreur. Elle dégageait un si beau trait dans l'air raréfié de la chambre, un si terrible relent de bête humaine, et un tel fumet surchauffé de femelle, que je sautai au bas du lit et, défaillant d'une abominable détresse, le cœur flottant dans la poitrine, un goût de viande morte dans la bouche, j'enfilai vite mes vêtements, vidais un de mes goussets sur la cheminée et partais. Et quand je respirais l'air plus vif du dehors, il était 2h30. Pas de voiture. En désespoir de cause, j'allais terminer au hall cette affreuse nuit, essayer de noyer l'écœurante saveur demeurée dans ma bouche dans l'eau salée d'une douzaine d'huîtres et l'effervescence des sodas. L'odeur animale de cette fille me semblait imprégner ma peau et mes vêtements. Oh, cette odeur! Si j'allais la rapporter à ma malade, à ma douce et dolente abandonnée de là-bas. Les maraîchers commençaient à arriver, les fleuristes s'installaient dans l'eau bruissante, au beau milieu de la travée comprise entre le beurre et les fruits. Instinctivement, j'achetais des bottelées de narcisses, de giroflées fraîches à senteur de vanille et de poivre, et à 6h15, j'étais à la gare Saint-Lazare dans le train ouvrier, les bras chargés de fleurs. J'étais à 6h30 chez moi, à Auteuil. Marthe dormait. Elle ne m'entendit pas rentrer, et je pus, avec des précautions, me déshabiller, me coucher dans la chambre que j'occupe auprès de la sienne, sans troubler son sommeil. Le sommeil du matin, le sommeil si précieux, où se refont le sang et les forces épuisées des malades. Et vers 10h, c'était sa voix qui m'éveillait, en me demandant d'un appartement à l'autre. « Comment as-tu dormi? Tu as rêvé tout haut cette nuit. Tu m'as appelé par mon nom 2 fois. »« Ah non, c'est toi qui as rêvé, ma chérie. »« Mais pas du tout, je ne dormais pas. Je venais de me verser une cuillerée de chloral. Tu as appelé 2 fois. » Mais assez fort, Marthe, Marthe. Alors je t'ai demandé ce que tu avais, mais tu n'as pas répondu. Alors j'ai pensé que tu rêvais, et je t'ai laissé dormir. J'ai même regardé l'heure à ma montre, et au cartel de ma chambre, ma montre marquait 2h. Le cartel de 2h10, tu vois, que je ne dormais pas. Oh, mais c'est donc moi qui rêvais, concluai-je, ne voulant pas, de peur de l'effrayer, qu'elle sût que j'avais découché cette nuit-là. 2h du matin. Avouez que la coïncidence est au moins étrange. À l'heure même où je défaillais, pris d'une abominable angoisse morale, dans une chambre de fille au cœur de Paris, dans le quartier de l'Europe, ma femme, couchée à Auteuil, entendait distinctement ma voix l'appeler par son nom, par 2 fois. « Marthe, Marthe !» Y aurait-il donc à travers l'espace de secrètes affinités ou simplement correspondance d'âme? Oui, je vous le disais, faisait-il en se levant et en posant son index sur la petite revue. Ces jeunes ont un nid dans le vent et flairé quelque chose. Il y a certainement une filière inexplorée dans l'inconnu, dans le frisson du monde de l'au-delà.